Voigny. Cette semaine, Caroline Brouet rencontre Thierry Marx. Ce soir, manger juste, l'alimentation aujourd'hui, la cuisine de demain.
Bonsoir Thierry Marx.
Bonsoir.
Alors pour cette dernière émission de notre série d'entretiens, j'aimerais bien qu'on parle aujourd'hui de l'alimentation d'aujourd'hui et de celle de demain, à laquelle vous réfléchissez au quotidien avec vos équipes et depuis de nombreuses années. En quelque sorte, on pourrait résumer la chose de la façon suivante. Comment faire en sorte que tout le monde puisse manger correctement sans détruire la planète? Est-ce que bien manger est réservé aux riches? Que mangera-t-on en 2050? C'est quelques-unes des questions qu'on peut se poser, sachant que l'équation est complexe et peut-être de plus en plus. Aujourd'hui, une personne sur trois souffre de malnutrition. Notre nourriture est trop riche en matières grasses, en sucre, en sel, en viande. Un tiers de la nourriture est gaspillée. Nos ressources naturelles sont fragilisées. Le réchauffement climatique a un impact sévère sur notre alimentation et la population atteindra 9 milliards de personnes d'ici 2050. Donc, comment assurer une nourriture saine à tous dans ces conditions? On peut se dire que l'équation est difficile. Est-ce que c'est pour tenter de répondre à ces questions et de résoudre cette équation, Thierry Marx, que vous avez créé en 2013 avec le physicien Raphaël Aumont le CEFIC, le Centre français de l'innovation culinaire à l'Université Paris-Sud-Orsay?
Il y a 1000 questions, il y a quelques réponses justes. Pourquoi on a créé le CEFIC? 2004-2006, on regarde la gastronomie moléculaire et on s'aperçoit qu'elle est décriée, contestée, maltraitée. On est quasiment traité dans la boue, insulté. On se dit on a déclenché quelque chose. Moi, je voulais rester un artisan. Je voulais reprendre cette phrase d'Escoffier, d'ailleurs. La cuisine, sans cesser d'être un art, devra soumettre ses formules trop souvent empiriques à la science. Donc avec Raphaël, on commence à entrevoir l'idée du CEFIC. On travaille d'abord avec l'université de Harvard et un chercheur américain formidable d'ailleurs qui était sur Paris. Et puis on décide de s'émanciper, vraiment, de pouvoir créer avec ses doyennes de l'université d'ailleurs qu'on doit beaucoup remercier, de nous permettre de créer le Centre français d'innovation culinaire. Et puis là, on s'est dit on va trouver le rythme en marchant. Et ce qui s'est imposé immédiatement à nous, c'est quelle cuisine pour 2050, quelle gastronomie pour 2050. Et on a créé, nous avons créé avec Raphaël et d'autres, un cerveau collectif de réflexion. C'est-à-dire que oui, il y a l'aspect physico-chimique de la cuisine, qui est un moteur intéressant pour continuer à innover et à se débarrasser de certaines légendes ou certaines postures de cuisine. Et puis tout de suite est imposé à nous un impact très ancien d'ailleurs. On pourrait considérer que c'est l'Antiquité grecque, c'est Apicius, la cuisine, plaisir, bien-être, santé. Et immédiatement, ça nous a ramené à aujourd'hui, en se disant, mais comment, là, maintenant, on peut avoir un impact social et un impact environnemental dans notre cuisine pour toutes les catégories sociales, y compris les moins favorisées.
Donc, penser la cuisine de 2050, c'est évidemment penser celle d'aujourd'hui. Et comment on peut arriver à changer nos modèles alimentaires?
Ça veut dire que si aujourd'hui, on se met en mouvement, en tant que citoyen, si on commence à reconsidérer l'impact social et l'impact environnemental de notre assiette, on arrivera, je pense, à 2050 dans de bonnes conditions. Mais si on continue à surconsommer, jusqu'à se consumer finalement, en nous laissant croire que le prix fait la valeur, là on va dans le mur et c'est très dangereux. Alors évidemment, les plus aisés, les plus favorisés mangeront bien, et les moins favorisés continueront avec une cuisine qui ne serait plus acceptable. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, un simple citoyen, en acceptant de consommer un peu moins, de manger un peu moins, de jeter...
En particulier de la viande.
En particulier de la viande. Moi, je milite beaucoup pour le flexitarisme, c'est-à-dire de la viande une fois par semaine, du poisson une fois par semaine, et de végétaliser son alimentation, et de privilégier dans cette alimentation le légume, bien sûr, et le circuit court. Et pas en trop grande quantité. Là aussi, c'est la quantité de ce que nous mangeons qui fait qu'on dérègle un certain nombre de choses. Donc le CEFIC travaille un petit peu là-dessus. Et tous les trimestres, on se regroupe avec différents chercheurs. Moi, évidemment, c'est que la partie artisanale. Comment on peut aider à l'impact social et l'impact environnemental d'un produit? Et comment on peut interagir tout de suite sur notre alimentation pour préparer 2050 dans de bonnes conditions? Parce que 9,7 milliards d'individus, c'est énorme. Et Quand on dit ça et quand on travaille pour les plats de Thomas Pesquet, Thomas Pesquet, quand il est dans l'espace, il nous fait des feedbacks extrêmement intéressants. Il dit, mais vous parlez de gastronomie de 2050, mais moi je vous parlais d'un problème planétaire. Il y a un stress hydrique sur cette planète. Il n'y a pas assez d'eau. Il n'y a pas assez d'eau. Donc si vous continuez à produire du bétail comme vous le produisez, à travailler sur la déforestation comme on le fait, et l'actualité nous en donne encore un exemple flagrant, vous allez dans le mur, vous ne survivrez pas, il n'y a pas deux planètes. Il n'y a pas deux planètes. Donc c'est nos modes de consommation qui ne vont pas. Donc déjà, on peut arrêter avec cette consommation effrénée, apprendre à acheter, réapprendre à cuisiner avec beaucoup plus d'impact social et d'impact environnemental. Et ça très tôt. Pourquoi ? Je reviens toujours à mon envie militante de faire des cours de cuisine à l'école. Parce que là, vous touchez tout de suite, de façon pratico-pratique, les élèves qui vont être les consommateurs de demain. Donc, leur apprendre à... C'est ce qu'on a fait d'ailleurs à Orsay. On a des jardins, des serres, on intervient avec des gamins sur ces serres. Ce que c'est qu'une carotte, qu'est-ce qu'on peut en faire ?
À quoi ça ressemble
Comment ça pousse ? Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Et est-ce qu'il y a des choses à jeter ou pas ? Quand on regarde ce qu'il y a à jeter dans une carotte ou dans une tomate, il y a 2% du produit à jeter. Aujourd'hui, on en met quasiment 30% à la poubelle. Donc de réapprendre à utiliser les ressources de cette planète en bonne intelligence, et ça, c'est un travail qu'on peut faire dès maintenant. Et un travail qu'on peut aussi faire dès maintenant, c'est de travailler sur des sols vivants. Donc là aussi, il faut aider les agriculteurs pour qu'ils aient moins besoin d'intrants chimiques pour développer leur agriculture de masse, mais revenir à des agricultures qui correspondraient à un mode de consommation moins empirique.
Ce qui permettrait aussi sans doute d'éviter un certain nombre d'allergies ou d'intolérances dont on parle beaucoup ces dernières années, comme le gluten.
J'ai fait partie de ces gens qui ont expérimenté un tas de choses, le sans gluten, auquel je ne croyais pas. Le problème, c'est le grain de blé. Quand vous voyez la qualité du blé et que vous voyez certains pains complets, vous n'avez pas de problème d'allergie au gluten parce qu'il y a très peu de gluten dedans, donc et très peu de pétrissage. Tout ça, c'est une question de consommation et de redonner du sens à ce que nous mangeons. Pourquoi on mange ? Pour se restaurer. Quand on restaure une maison, c'est pas pour l'abîmer. C'est juste pour qu'elle soit, soit qu'elle retrouve son lustre d'antan, soit qu'elle soit toujours aussi belle. Donc il faut considérer que la cuisine, ce que nous ingérons, a de l'importance. Si on continue à se dire, ce que j'ingère, c'est de la consommation et de la surconsommation, là, effectivement, on va finir de consommer cette planète, et là, on ira dans le mur avec 9,7 milliards d'individus, parce que les plus aisés sont toujours très protégés. Les circuits courts, bah, vous avez, on les connaît, hein, on va pas citer Amazon, mais voilà, vous aurez qu'à acheter en cliquant chez le meilleur petit producteur, où Amazon sera allé chercher ce produit-là et le ramener directement chez les plus aisés. Mais il restera quoi aux autres ? Une agriculture de masse qui détruit la planète ? Est-ce qu'on va continuer à tolérer tous ces grands marchands de volailles, où on fait des volailles chlorées pour faire des nuggets ? C'est ridicule. Donc,
il vous arrive, Thierry Marx, de collaborer avec des grands groupes, avec la grande distribution. Comment réagit-elle à un discours comme le vôtre aujourd'hui ?
Plutôt bien. C'est-à-dire que, vous savez, je ne vais pas critiquer l'industrie, mais en même temps, il y a un certain cynisme dans l'industrie. Moi, j'aime bien...
L'industrie agroalimentaire, en l'occurrence.
L'industrie agroalimentaire, mais même dans les autres industries, mais dans l'industrie agroalimentaire. Moi, j'aime bien la phrase de Coluche. J'ai eu beaucoup d'admiration pour Coluche. Et Coluche disait, il suffirait qu'on ne l'achète plus pour que ça ne se vende pas. Donc, à un moment donné, c'est à nous de dire, non, ça stoppe. Ça, ben, on n'en consommera pas. Le plastique, on arrête. J'en veux plus chez moi. Les légumes hors saison, j'en veux plus chez moi. Vous voyez, redonner du sens à notre assiette. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va toucher le portefeuille.
Alors qu'on a l'idée inverse.
Alors qu'on a l'idée inverse.
C'est plus cher.
Et ce qui m'agace, c'est encore dans ces réseaux de grande distribution, où on vous laisse croire que le prix est la valeur. Oui, mais chez nous, c'est moins cher, ce sera moins cher. À un moment donné, le moins cher, c'est trop cher. Il y a quelqu'un qui va payer l'addition.
Donc moi, en termes de santé, on va en particulier.
En termes de santé, mais en termes aussi de vie. C'est-à-dire qu'un agriculteur qui n'est pas payé à son juste prix, eh bien, il va risquer de faire plus de volume en abîmant beaucoup la terre. Donc aujourd'hui, s'il y a moins de demandes, eh bien, on pourra rentrer dans un cycle. Moi, je crois à l'échelle de valeur. J'ai mon copain Arnaud Daguin qui dit toujours l'échelle de riche terre. Et Richter, c'est mesurer l'impact social et l'impact environnemental d'un produit. Impact social, combien je paye à l'agriculteur le produit en fonction de quoi il a suffisamment pour vivre, pour se développer et de protéger la terre qu'il transmettra aux générations futures. Ça, c'est l'impact social. L'impact environnemental, eh bien, on l'aura tout de suite, c'est-à-dire moins d'intrants chimiques, une terre du vivant, parce que la cuisine, c'est du vivant, c'est pas du mort. Quand vous prenez la terre de la Beauce, de 2019, 2020, aujourd'hui, donc, à 1954. 1954, 2 tonnes de lombic à l'hectare. Vous voyez ces gros vers de terre qu'on trouvait dans une terre riche, un peu grasse, comme ça. Aujourd'hui, c'est 200 kilos hectare. Voilà. Oui, donc, quand vous produisez sur des terres comme ça, bien souvent, vous produisez des produits morts qu'on a surdosés en produits phytosanitaires. Donc, faut pas être naïf. Forcément, vous avez des intolérances à ces produits. Forcément, nous, en boulangerie, on va surpétrir ces farines, on va les surlevurer. Donc, vous allez déclencher des sucres à la consommation de ce type de produits, etc., etc. Donc le déséquilibre est là. Je reviens des États-Unis où on voit ce taux de saccharose, ce taux de matière grasse dans l'alimentation. On voit bien l'impact que ça a socialement sur ces populations. Donc aujourd'hui, c'est redonner du sens à ce qu'on mange et c'est maintenant.
Au Centre français de l'innovation culinaire à Orsay, avec Raphaël Aumont, Thierry Marx, vous réfléchissez précisément à des choses comme la cuisine sans sucre ou la cuisine sans déchets, vous le disiez tout à l'heure. Il y a un exemple qui me semble très visuel, très frappant et très simple, c'est la confiture d'orange.
Oui, 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 oui.
Avec quasiment toute l'orange, sans rajouter de sucre, sans gélifiant artificiel, sans pectine.
Exactement.
Juste avec l'orange.
Exactement.
Vous
c'est étonnant parce que nous, on milite, la mission du Centre français d'innovation culinaire, c'est de faire une cuisine durable. On trouvait que le mot cuisine moléculaire, gastronomie moléculaire, n'était pas un mot très joli, et ça affolait tout le monde, alors on a préféré le titre cuisine durable, en utilisant certains secteurs de la gastronomie moléculaire, bien entendu, en termes de recherche. Mais quand vous parlez de la confiture d'orange en sucre, on sait bien que le taux de saccharose, l'utilisation de la saccharose est trop importante aujourd'hui dans l'alimentation. Pourquoi continuer à faire des confitures avec 50-60% de sucre pour avoir l'appellation confiture? Est-ce qu'on a besoin, à notre époque, d'un temps de conservation aussi long qu'au 19e siècle? Non, je ne crois pas. Donc on a appris à faire des confitures sans sucre. Et puis de se dire, mais quand j'utilise une orange dans mes propres cuisines, je m'apercevais qu'on mettait 30% de l'orange à la poubelle. Alors que Raphaël nous dit, mais pourquoi vous privez des huiles essentielles?
C'est ce qu'il y a dans la peau et à l'intérieur, le blanc qui est à l'intérieur.
Pourquoi vous vous privez de la petite peau blanche à l'intérieur de l'orange, qui est une pectine très intéressante, qui devient un gélifiant naturel? Et on s'est aperçu que finalement, on pouvait faire une confiture d'orange sans sucre ajouté, avec zéro déchet. Donc, vous voyez, c'est ces cuisines durables, ces modes de consommation, cette réflexion sur la consommation. Et puis, on a été, le siècle précédent, des très riches, même quand on était dans des extractions sociales modestes, eh bien, on surconsommait des choses qui ne servaient à rien. On a cru trop longtemps qu'il fallait remplir le frigo, sinon on n'existait pas. Si on n'avait pas surconsommé dans l'hypermarché, on n'existait pas. Et puis tout ça est en train de se déliter. Il faut constater que ça a abîmé complètement notre planète. Donc il faut reprendre les rênes. Et ça, je crois que le citoyen peut comprendre que quand il construit son assiette, il y a un impact social. Mais c'est de réapprendre la cuisine, vous réapprend aussi un geste économique. Et ça, c'est important parce que je me souviens au Resto du Cœur, mes ateliers cuisine étaient tournés sur l'économie de la cuisine. Et je m'apercevais que un jour, une dame, c'était une anecdote comme ça, me dit, mais je dis, voilà, on va faire des pâtes. Alors, évidemment, il y avait les produits des bénéficiaires, on n'utilisait que les produits des bénéficiaires. Ah madame, alors quand vous faites des pâtes, vous en cuisez combien? Mon mari et moi, je cuis le paquet. Je vais cuiser le paquet, mais c'est 500 grammes, quoi. Elle a dit, bah oui, mon mari mange beaucoup. J'ai dit, il n'en reste jamais. Ah bah si, il en reste, et quand il en reste, bah, je ne sais pas quoi en faire, je les jette. Alors je leur dis, mais vous savez, les pâtes, c'est 50 grammes environ, c'est la taille d'une pièce. À l'époque, je disais une pièce de 5 francs. Voilà, vous prenez dans vos doigts, et comme ça fait 50 grammes par personne, vous faites 3 fois comme ça. Ah bon, vous voyez, le rapport au produit, il y en a, je le cuis, et s'il y en a trop, je jette. Donc c'est redonner du sens à l'action de cuisine. Parce qu'il y a un sens économique dans la cuisine. Et nos aînés nous apprenaient ça quand on était apprenti cuisinier, de donner de la valeur ajoutée à un produit simple. Il n'y a pas de gloire à mettre du caviar sur une langoustine, il n'y a aucune gloire là-dedans. Mais de savoir cuire un œuf à juste température, de savoir faire la bonne dose d'une mayonnaise, de savoir utiliser le bon poids de légumes secs, ça a du sens. Et ce qui vous laisse une économie supplémentaire, un budget supplémentaire, pour acheter de meilleurs produits dans de meilleures conditions.
Vous dites réapprendre, vous dites retrouver du sens. Est-ce que vous considérez qu'il y a eu une rupture générationnelle dans la transmission, dans l'éducation, dans l'apprentissage du savoir-faire culinaire?
Bien sûr, parce qu'on a placé d'abord la consommation en premier, pas l'acte de cuisine. On s'est dit, le surgelé c'est formidable, les produits transformés c'est formidable, je vais gagner du temps. Du temps pour quoi? Du temps pour être malade ensuite?
Du temps. Au départ c'est du temps pour soi, en particulier concernant les femmes.
Et finalement, une libération, quoi. Je me souviens d'un des mots de Michel Guérard il y a quelques années, qui avait demandé à un grand marchand de sandwich américain qu'est-ce qu'il allait investir pour l'obésité de nos gamins dans les années 2000. C'est extraordinaire, c'était extrêmement fort comme message. Personne n'avait écouté ça. Moi, j'ai retenu ces mots parce que je regarde dans les archives de l'INA de temps en temps pour une émission et j'avais entendu les mots de Michel Guérard dire ça. Voilà, il y a une vraie interrogation. À un moment donné, on a accepté l'inacceptable. Voilà, c'est comme ça. Mes parents ont fait partie de cette génération d'accepter l'hypermarché. Un hypermarché, c'était 70 000 produits en moyenne dans un même lieu. Évidemment, pour des gens qui avaient connu la guerre, qui avaient connu la privation, qui rentraient en fin des Trente Glorieuses, se disaient, mais on a le droit de consommer. Est-ce qu'on ne pourra pas donner aux enfants? On leur donnera dans la consommation, on leur donnera dans les sodas, on leur donnera dans tout ça. Et on a oublié la démarche économique, on a surconsommé pour arriver dans les années 2020-2030 dans une consommation. On a consumé la planète. Et ça, c'est dangereux. Et là où j'ai confiance, c'est que l'être humain a quand même un instinct de survie et on voit arriver aujourd'hui des gamins qui viennent nous expliquer qu'ont 15 ans, je vois cette jeune fille formidable.
Greta Thunberg.
Oui, elle est formidable parce qu'elle dit quoi? Elle dit non, mais moi je sais pas. Mais au moins, s'il vous plaît, messieurs les politiques, messieurs, mesdames les politiques, écoutez ceux qui savent. Ceux qui vous parlent des terres vivantes, du lien du vivant dans la cuisine, des terres agricoles, et d'arrêter de consommer comme on consomme. Donc ça, c'est intéressant d'écouter ces gamins aujourd'hui sur le climat parce que aujourd'hui, vous et moi, mais l'ensemble des citoyens, on peut déjà faire quelque chose sur nos modes de consommation.
Oui, c'est d'abord le citoyen, dans ce que vous dites, Thierry Marx. C'est d'abord le citoyen qui peut manger différemment pour qu'ensuite on produise différemment.
Et qu'on arrête avec les faux prédicateurs de la pauvreté qui m'agacent.
C'est-à-dire
une baguette de pain. Je prends l'exemple d'une baguette de pain. Une baguette de pain à 80 centimes d'euros, ça n'a aucun sens. Aucun sens. C'est une farine de mauvaise qualité, faite dans de mauvaises conditions, et qui finira par produire un pain que vous paierez trois fois. Une fois à la caisse, une fois pour vous soigner, et une fois avec vos impôts pour aller nettoyer les intrants chimiques qu'il y a sur notre planète et sur nos plages. Vous voyez, c'est ça, une baguette à 80 centimes d'euros. Une baguette à 1,20€. Vous protégez une filière agricole, vous protégez une filière de l'artisanat, et vous la paierez qu'une fois. Et vous la mangerez dans de bonnes conditions. Donc, vous voyez, c'est redonner du sens.
Donc, oui, mais certains, Thierry Marx, pardon de vous interrompre, certains n'ont pas les moyens. Alors là, vous prenez la baguette, mais si vous prenez la baguette, plus les fruits, plus les légumes, plus la viande, plus les poissons,
c'est archi faux.
Ça devient très cher.
Moi, je fais.
Et tout le monde ne peut peut-être pas se le permettre.
Arrêtons avec ce discours. C'est insupportable de dire. Alors, si vous êtes pauvre, vous avez le droit d'être malade. Vous avez le droit d'être malade. Vous avez même le droit d'être malade en priorité. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Donc c'est pas une question de prix. Le prix, encore une fois, n'est pas la valeur des choses. Quand vous mangez une baguette à 1,20€, vous n'êtes pas obligé d'acheter une bouteille de soda. C'est redonner du sens à votre alimentation. Parce que sinon, vous paierez l'addition trois fois. Et ça, n'importe quel des médecins pourra vous le dire. N'importe quel des économistes pourra vous le dire. C'est pas parce que vous êtes dans une extraction sociale. Et je me bats pour ça au Resto du Cœur, dans nos ateliers cuisine avec le Secours Populaire ou au Resto du Cœur. J'ai toujours milité pour ça. Oui, je reconnais qu'à un moment donné de votre vie, vous êtes dans une situation de précarité. C'est pas une raison pour continuer à vous empoisonner. L'urgence, c'est pas une solution. Vous savez, on parlait de Chine côté Chine dans des émissions précédentes, étudie le passé. Nos aînés avaient le sens de souvent du budget économique. Aujourd'hui, le budget de l'alimentation a diminué. Pourquoi ? Parce qu'on l'a consacré à autre chose. À un moment donné, il faut faire un choix. La vie, c'est souvent l'école du deuil. Qu'est-ce que je vais lâcher dans mon écosystème pour être en meilleure santé ? C'est juste la question à se poser. Et on pourrait saluer quelqu'un comme Jean-Pierre Coff. Tout le monde a un peu oublié Jean-Pierre Coff, mais Jean-Pierre Coff, à une époque, à une de ses premières émissions, c'est qu'avec un tout petit budget, il faisait un menu pour 4 personnes. Et je me suis réessayé chaque année de faire un réveillon avec un petit budget. Et croyez-moi, avec des fois un petit budget, un peu d'astuce, on arrive à faire un grand réveillon. Et donnez du temps un petit peu pour vous, pour vos enfants, pour votre écosystème, pour refaire la cuisine. Et même si c'est pas la meilleure des cuisines, même si on ne vous reconnaît pas des talents de cordon bleu, à un moment donné, vous savez ce que vous avez dans votre assiette. Il faut revenir à reprendre conscience que de se restaurer, c'est pas de se détruire.
Thierry Marx, on arrive au terme de ces entretiens et dans une des émissions précédentes, vous vous êtes qualifié de rêveur. Donc c'est au rêveur que j'aimerais m'adresser pour terminer. Est-ce que vous rêvez encore, je ne sais pas, de la troisième étoile par exemple ?
Est-ce que je rêve encore de la troisième étoile ? Oui, bien sûr. Moi, j'ai grandi, j'ai été biberonné aux trois étoiles, donc que ce soit Claude Delingue, Joël Robuchon, ils ont atteint ce niveau, ils l'ont gardé aussi. Donc, bien sûr que ça fait souvent, on en rêve encore, on travaille pour, hein, parce que c'est pas que de la
c'est pas qu'un rêve. Rêve.
C'est ce qu'on dirait les Anglais, un forecast, et dans lequel on met des backcasts pour y arriver. Donc, c'est une prévision qu'on voudrait atteindre. Avoir trois étoiles, c'est pas non plus renoncer à qui on est et de se faire une espèce de copier-coller de ce qui se fait ailleurs. Je crois pas. Je crois que c'est une vraie histoire de cuisine, c'est une vraie signature. Alors, certains l'ont, d'autres l'ont pas. Mais je crois qu'il faut pouvoir assumer sa cuisine et ça, bon, voilà, on y travaille. Oui, non, le rêveur croit toujours en cette troisième étoile, à y travailler. Et c'est une troisième étoile, c'est important parce que si j'étais tout seul, de façon, aujourd'hui, je me suis dit, bon, on a créé quelque chose avec une équipe, on en vit plutôt bien, est-ce que cette troisième étoile, ça peut servir à ça ? Mais mes jeunes collaborateurs, eux, ils y croient, et je leur dois ça. Je leur dois de tirer, continuer à tirer vers le haut, et même si on ne l'a pas, eh bien, on aura fait tous les efforts nécessaires pour essayer de l'obtenir. Et donc oui, le rêveur croit encore à ça, parce que je crois à la puissance du rêveur. Le rêveur entrevoit des choses, des fois qui sont assez lointaines, mais qui continuent à le tirer vers le haut et tirer vers l'avant, surtout. C'est toute la magie du rêve.
Vous êtes un rêveur, mais vous êtes aussi un chercheur, vous êtes aussi un créateur, vous êtes aussi un entrepreneur, un artisan cuisinier, comme vous aimez le dire de vous-même, un artiste. Est-ce qu'il existe, avec toutes ces facettes-là, quelque chose qu'on pourrait appeler le plat ultime, qui serait un rêve pour vous ?
J'ai pas de plat ultime, parce que chaque fois que je découvre un nouveau plat, d'abord j'ai toujours une petite frustration de ne pas l'avoir pensé moi-même, donc je découvre encore chez des confrères sur l'ensemble de la planète des plats qui me fascinent, des plats magiques, mais je reste très attaché à un modèle qui est le pain. Moi, j'ai comme les premières odeurs, les premiers arômes, les premières saveurs de ma gastronomie à moi, c'était le pain. C'était le pain de Bernard Ganachot, 140 000 montants à l'époque.
Et c'est votre Madeleine de Proust.
C'est ma Madeleine de Proust. Et pourquoi ? Parce qu'en gastronomie, je dis toujours le geste, le feu, le temps, donner de la mémoire à de l'éphémère. Moi, j'ai encore le goût de ce pain. Légèrement acidulé, le vin naturel, les graines qui étaient toastées à l'intérieur et tout. C'était un pain merveilleux et j'ai encore ça en mémoire. Donc pour moi, la référence du plat ultime, c'est quand même le modèle, le modèle du pain, parce que de l'eau, de la farine et du talent. Eh bien, il n'y a pas meilleur modèle pour la gastronomie. Et je crois que la gastronomie, la cuisine, c'est de savoir aussi épurer. Et comme je l'ai évoqué plusieurs fois, donner un confort de dégustation tout en restant plus près du goût originel. Donner de la mémoire à de l'éphémère, c'est ça. Et c'est très compliqué. Mais quand vous y arrivez, on est de l'ordre d'un plaisir émotionnel extrêmement fort, qui n'est pas un plaisir gastrique, qui est un plaisir cérébral. Et ça, c'est quand même quelque chose qui, quand vous sentez dans l'œil du convive qu'il a vécu quelque chose d'incroyable, par retour, vous vivez quelque chose d'incroyable. Et c'est toute la fragilité du cuisinier. Quand on veut être un cuisinier un peu auteur, c'est quand on n'y arrive pas, et ça arrive. Et ça arrive, et bien, la déception est pour les deux. Et c'est compliqué. C'est pour ça que je cherche toujours à me rapprocher le plus près possible de mes convives. Et c'est pour ça que j'ai toujours cette envie de cuisiner. Vous voyez, ici, la cuisine, elle est là. Donc les personnes qui viennent dîner ici arrivent. Elles commencent d'ailleurs à travailler avec moi en cuisine, à regarder un petit peu comment nous faisons avec les équipes pour ensuite passer à table. Mais j'ai besoin de cette communion entre la cuisine que je réalise et le convive. Et quand ça fonctionne, et ça fonctionne quand même assez régulièrement, eh bien, vous vivez quelque chose de grand. Et dans les deux côtés. Donc, à la limite, j'aimais bien, j'avais découvert un restaurant au Japon où l'addition vous était envoyée à la maison. Et j'adorerais faire ça en France. Parce que j'aime pas avoir un rapport d'argent avec les convives. J'aime pas traiter ce sujet. Donc, dans ce restaurant, quand j'étais au Japon, je me souviens que c'était Monsieur Mikuni qui m'avait emmené. Je lui dis, mais il n'y a pas d'addition. Il me dit, non, je la reçois chez moi. Et c'était pour l'ensemble des convives. Et je vous parle de ça, c'était dans les années 90. Et je lui dis, mais c'est surprenant, et si quelqu'un ne paye pas? Il me dit, mais tu n'y penses pas, personne n'oserait faire ça, de ne pas payer. Et je trouvais ça très très bien, parce que le cuisinier chez qui on était, qui était un monsieur formidable, qui avait des cueilleurs qui travaillaient pour lui et tout ça, ne voulait pas avoir de rapport avec l'argent. Il trouvait que l'argent, c'était polluant. Donc ça polluait son art et son artisanat. Je trouvais ça formidable et j'aimerais arriver à ce niveau de spiritualité en cuisine pour pouvoir faire ça dans un petit endroit à Paris.
Thierry Marx, vous parlez beaucoup du geste, de l'éloge, vous faites l'éloge du geste, de la maîtrise du geste. S'il y avait un geste qui serait le vôtre, ce serait lequel?
Qui serait mon Kodawari, ou mon Satori, mais c'est le geste de découpe, le geste précis pour découper un poisson sans l'abîmer, c'est le geste de tourner un champignon, tourner un légume sans l'abîmer, avoir un couteau, et le geste délié, c'est-à-dire le geste qui n'a pas de contrainte excessive, c'est-à-dire que plus vous avancez dans la pratique d'un art, moins la pression est sur vos épaules. Et je me souviens, quand je débutais de ce métier, je finissais par avoir mal aux épaules en essayant de couper correctement, et c'est ça. Et aujourd'hui, le geste précis, quand je tourne un champignon, ce qui n'apparaît plus utile à aucun cuisinier aujourd'hui de tourner un champignon, je m'aperçois que quand je fais ce geste de tourner un champignon pour qu'il soit joli, eh bien, mes épaules sont pas rigides, mais mes mains sont détendues, je suis bien dans l'intégralité de mon corps et de mon esprit. Et donc, je trouve que le geste de tourner un champignon est un geste enthousiasmant pour le cuisinier.
Merci beaucoup, Thierry Marx, pour ces entretiens.
Merci à vous, c'est toujours très touchant.
Fin de cette rencontre de Caroline Brouet avec Thierry Marx. À voix nue. Réalisation Véronique Lamandour, prise de son Amandine Grevoz, attachée de production Daphné Abgral. Cette émission se réécoute et se podcast sur franceculture.fr.